bénir, lui apporter l'adoration qui lui est due. Mais nous sommes aussi, comme l'a dit Marie-Christine tout à l'heure, nous sommes un corps. Hein, tu as dit ça tout à l'heure. Et un corps qui fonctionne, un corps qui est vivant. Et nous sommes chacun une partie du corps de Christ, dont Christ est la tête. Et nous sommes tous assemblés. Il y a une partie du corps de Christ ici, il y en a d'autres qui sont ailleurs. Mais nous formons le corps de Christ que le Seigneur un jour viendra chercher au son de la trompette. C'est pour ça que j'aime bien cet instrument. Et voilà, et nous serons enlevés dans les airs avec lui. Et les morts en Christ ressusciteront. On revient de Doche. Et on a eu donc... merci pour vos prières pendant notre absence. Mathé a perdu sa maman. Et puis ensuite, une cousine est partie aussi dans la même famille. Bon, donc c'était l'hécatombe. Et puis aussi le décès de la belle-sœur de Jean-Marc Potenti, Sandrine, qui est décédée à l'âge de bientôt 44 ans. Et elle est partie. Mais voilà, tout ça, ça a été lourd à gérer. Mais en tout cas, ce qui est formidable, c'est que notre espérance reste vivante. Et nous savons où nous allons. Amen. Vous êtes sauvés, oui? Vous en avez la certitude? Votre amen étant tellement timide, je me dis, voilà, on partira tous ensemble. Et là, vous dites amen dans la gloire. Et nous le verrons face à face. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que mes yeux le verront un jour. Amen. Voilà, c'est bien, ça commence à... Voilà, je réveille les morts. Hein, enfin, voilà. Alors, la dernière fois, c'était au mois d'août, le 13 août, on a parlé justement de quelques clés qui permettaient pour chacun de nous d'être de bonnes relations pour les autres. Et on va continuer dans ce thème. Et je crois que cette Église est appelée à développer un caractère particulier, celui de la famille, si je me suis pas trompé. C'est bien ce que vous voulez développer, ce que nous voulons développer, la famille, être une véritable famille, pas de nom simplement, mais une famille qui fonctionne et qui est composée de membres qui ont des relations, qui s'aiment, qui prient les uns pour les autres, qui s'assistent, etc. Et les trois premières clés que nous avons partagées, c'était la réciprocité, la vulnérabilité et puis aussi la vérité, d'être vrai avec les gens, de ne pas se dissimuler, etc. Je voudrais continuer par une quatrième clé ce matin, et cette clé s'appelle le pardon et la miséricorde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche parce que l'humanité est bâtie sur une fraternité qui un jour a été brisée. Vous connaissez tous l'histoire d'Adam et des fils d'Adam qui étaient donc Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel, vous le savez ça, hein. Et depuis, nous sommes toujours en train de devoir ajuster nos relations fraternelles. On est toujours en train d'essayer d'ajuster, de performer cela, d'aller le plus loin possible dans la qualité, et c'est pas toujours facile. Nous avons besoin, et vous êtes d'accord avec moi, d'un pardon continuel. On a besoin de se pardonner mutuellement et de le faire toutes les fois où c'est possible. Et c'est Pierre qui un jour vient voir Jésus pour dire mais ce coup-ci j'en ai marre. Parce que combien de fois faut-il que je pardonne? Jusqu'à 7 fois dans la même journée. Et Jésus de le regarder et de lui dire non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ça veut dire en gros, pardonne toutes les 3 minutes quoi, dans la journée. Pardonne constamment. Ça veut dire c'est donc un pardon continuel. Et Pierre, tu dois... Vous savez, quand quelqu'un chante le matin auprès de vous et vous avez un petit air qui trotte dans la tête, ça vous arrive ça? Il y a des spécialistes dans ma famille qui le font exprès. Ils savent que je suis musicien et quand on chante un air, cet air, il me trotte toute la journée, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et pour Pierre, Jésus semble lui dire, Pierre, tu dois entretenir un refrain dans ton cœur qui est un refrain de pardon, un refrain de miséricorde, parce qu'il est impossible qu'il n'y ait pas des occasions de chute. Et vous êtes d'accord avec moi? Vous avez été blessé dans l'Église, vous avez été blessé dans les relations. Alors bienvenue sur Terre, nous sommes tous arrivés. C'est là que nous vivons, le monde, tout le monde descend, ça veut dire vous êtes sur la Terre, vous êtes dans la réalité des choses. Si vous avez été blessé dans l'Église, c'est très probable que cette Église se trouve sur Terre. Sinon, vous êtes encore dans les lieux célestes, et où ça plane, où il n'y a jamais de blessure, et on va juste prier ce matin pour une confiscation des pétards d'opium du peuple, parce qu'un jour, vous allez atterrir et vous allez découvrir ce qu'est vraiment l'humanité de l'Église. Mais c'est au milieu de cette humanité que Jésus dit, il est impossible que nous n'ayons pas des offenses, que nous ne soyons pas offensés. Alors, la définition de l'amour, c'est laquelle ? C'est surmonter les offenses. Et il y a quelques semaines de cela, quelques mois de cela en arrière, Luc en avait parlé quand nous étions à Chambéry, il avait parlé de surmonter les offenses. On a pu être offensés nous-mêmes, mais dans chaque communauté, à un moment donné, il y en a un qui aime toujours parler, il y en a un autre qui lui ne va pas assez parler, il y en a un qui va être en retard, il y en a un qui va oublier de venir, mais qui ne va pas le dire, et qui ne va pas prévenir, et on va lui dire, s'il te plaît, apprends à le faire. En tout cas, on a jusqu'au mois de juin pour apprendre à le faire, on a des mois devant nous, mais d'ici le mois de juin, on aura appris à prévenir, parce qu'on va apprendre à surmonter et à ensemble faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Afin qu'il n'y ait plus d'offense, et donc combien de fois dois-je pardonner à mon frère jusqu'à, comme diraient les Belges ou les Suisses, 70 fois, 7 fois par jour. C'est vraiment long déjà 7 fois, mais c'est terrible de faire cela, dire que c'est cela la communion fraternelle. Alors je vais vous répéter, oui, bienvenue sur Terre, nous sommes là pour ça, et il faut absolument que ça se passe. Alors nous avons besoin de vivre ce pardon, non pas de temps en temps, mais continuellement. Et il y a dans ton cœur peut-être un manque de pardon à l'égard de quelqu'un, c'est bien possible. Et le Seigneur est vivant, il est au milieu de nous, il nous parle ce matin, où il est en train de réveiller des choses qui sont cachées au fond de nos cœurs. Mais je crois que s'il y a un manque de pardon envers quelqu'un, le Seigneur te demande de choisir le chemin de l'humilité, ou d'écrire à cette personne, ou d'aller la voir, ou de lui téléphoner. Mais il faut absolument que tu règles cela devant Dieu. C'est important. Et que tu puisses remettre ton cœur à Dieu, faire cette démarche, juste pour dire, « Mais écoute, mon frère, ma sœur, j'ai eu de mauvaises pensées sur toi. Tant pis, s'il ne le sait pas, mais tu as eu de mauvaises paroles, de mauvais actes, des retenues peut-être. Il y a quelque chose en toi qui est revenu, tu as été déçu à un moment donné. » Et tu as gardé cette amertume dans ton cœur, alors tu dis à cette personne, écoute, pour tout cela, je veux te demander pardon. C'est quelque chose qui va libérer ta vie, qui va libérer ton cœur. Et on a besoin de cela, mes amis. On ne veut pas donner l'avantage au diable. Lui veut nous enfermer dans des prisons. Mais le Seigneur, lui, est mort sur la croix pour ouvrir nos prisons, pour nous en faire sortir et pour nous libérer. Et ce matin, combien son amour est doux. Combien sa présence est là au milieu de nous, et il veut dire, je ne te pointe pas du doigt, mais je te demande simplement d'avoir le courage de le faire. Il y a une chose qui est dramatique, c'est que bien souvent, lorsque quelqu'un nous fait un peu de mal, il y a dans notre tête un esprit qui prend toute la place. Toute la place. On n'arrête pas de penser à notre ennemi dans notre tête. Et là, c'est un changement que nous voulons faire, nous voulons gagner et nous voulons apprendre à fréquenter des amis, apprendre à penser avec les amis, à agir avec eux, mais on veut se défaire de tout ce qui est ennemi. Que mon frère et ma sœur ne soient pas dans ma tête un ennemi, que je ne me couche pas en pensant à lui en tant qu'ennemi, que je ne me réveille pas en pensant à lui ou à elle en tant qu'ennemi, mais que je puisse dire, Seigneur, je veux me débarrasser de cela, parce que tu as tissé nos cœurs ensemble, et tu veux faire en sorte que nous soyons des amis sur cette terre, et que nous cheminions dans la vie chrétienne ensemble. Et ça va être un jeu merveilleux que nous allons pouvoir faire. Dans la semaine, tu vas téléphoner, tu vas prier pour cette personne, et puis tu vas le faire. Alors, j'aimerais simplement, peut-être cette semaine, que nous puissions jouer un jeu ensemble, le jeu des anges. Vous savez ce que c'est être un ange pour quelqu'un? Ça veut dire ça va être l'humain qui va bénéficier de tes prières, de ton attention. Tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler cette personne. Peut-être même tu vas lui faire un cadeau et lui offrir dimanche prochain. Mais tu vas être cette semaine, tu vas faire cela, tu vas jouer ce jeu merveilleux qui va nous apprendre à prendre soin les uns des autres parce que nous avons besoin de grandir dans ce domaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Et il y a des choses qu'on peut faire qui sont très simples, mais quand on les fait, on voit le résultat sur le visage de la personne à qui l'on fait du bien. Et je veux faire ce choix d'accorder plus de place à mes amis dans l'église, dans l'équipe, à mes amis dans mon cœur, mais moins de place à mes ennemis dans ma tête. Est-ce que vous dites amen ? Amen. Plus de place à mes amis, moins de place et plus de place du tout à mes ennemis. Que l'église Josué ne soit pas un grand orphelinat, mais que ce soit une véritable famille. On peut se gargariser d'être une famille aussi, hein ? Mais on peut aussi tendre à vivre réellement, être une famille. La famille Josué, je déclare que c'est une famille en Christ. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation et il a mis en nous la parole de réconciliation. Et nous voulons dire tous ensemble ce matin que son nom soit béni. Alors essayons d'être un ami, un ange pour quelqu'un cette semaine. Appelons cette personne et disons-lui, je prie pour toi. Je veux te faire un coucou, mais te dire combien je t'apprécie, combien je t'aime en Christ et combien je veux te voir t'épanouir dans le corps de Christ local. Mais en même temps, je veux m'épanouir à tes côtés et ensemble, nous cheminons pour que l'Église avance dans sa destinée. Voilà une clé qui peut être reçue de vos cœurs ce matin, mais qui peut être appliquée pratiquement dans la vie quotidienne. Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer de le faire ? Je sais que vous répondez dans votre cœur. Il y a des gens qui disent, bon, tu n'as pas le sourire. Si, si, je souris, mais c'est dans mon cœur. Ok, je respecte. Alors, un point encore que je voudrais partager avec vous ce matin. Nous savoir aimer de Dieu nous conduit à l'estime de nous-mêmes, mais aussi à l'estime des autres. La Bible nous dit dans 1 Jean, on va être biblique, on va donc donner un verset ce matin qui va être affiché, 1 Jean 3,16, et ça c'est un verset que j'avais fait afficher dans l'église où nous étions, trois mots simplement, Dieu est amour. J'aime ce verset, il est très court, 1 Jean 4,16, oui. 4,8, bon alors d'accord. Jean, 1 Jean 4,8, je me soumets à ma bien-aimée. Dieu est amour. Est-ce que vous aimez ce verset ? Dieu est amour. Ils sont en train de le chercher. Avant la fondation du monde, la Bible nous dit qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est un mystère que je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous le comprenez, vous. Mais avant que le monde ne soit créé, il savait que nous existerions un jour. Mais il savait aussi quelle serait notre destinée. Il savait que nous serions un jour ses enfants. Et je suis fier d'être enfant de Dieu, et vous ? Moi, je suis fier d'être enfant de Dieu. Alléluia. Dieu nous a aimés, et la source de tout amour, c'est Dieu. La source de toute relation, c'est Dieu. Et on dit amen. Dieu a voulu être dans une relation d'amour avec moi, avec chacun d'entre nous ici, et quand je le reçois, mon cœur est comblé par cet amour, et je suis rendu capable d'aimer les autres. La Bible nous dit que l'amour de Dieu, et ça c'est quelque chose que le monde n'a pas, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient en moi, mais que je reçois par la foi. C'est pas quelque chose qui me tombe comme ça, je le reçois parce que je suis une créature de Dieu, je suis aimé de Dieu, avant même la fondation du monde, j'ai été aimé par lui. Mais je veux recevoir cet amour par la foi et être rempli de l'amour de Dieu. Et vous savez, Jean dira dans sa première épître, il nous a aimés le premier, en retour nous voulons l'aimer. Ce matin on a pu le louer, l'adorer, parce qu'il est venu le premier dans nos cœurs, dans nos vies. Mais parce qu'il a fait cela, nous sommes émerveillés, nous sommes même étonnés de tant d'amour. Il aurait très bien pu nous rejeter, exercer sa justice de façon implacable. Souvent, on nous a présenté Dieu comme le père fouettard, vous savez, celui qui nous donne une danse quand ça ne va pas, quoi. Mais non, Dieu est amour. Ça ne veut pas dire qu'il nous laisse faire n'importe quoi, mais il nous aime tellement qu'il nous conduit en nous éduquant, en nous corrigeant, en nous redressant, mais toujours en nous remplissant de son amour. Nos cœurs débordent de l'amour de Dieu si on le laisse nous envahir. Et je dis, Seigneur, envahis mon cœur par ton amour. Quand notre cœur est vide d'amour, il n'y a aucune capacité à aimer les autres, on ne peut pas le faire. Mais Dieu nous aime, et c'est tellement essentiel, c'est tellement vraiment fondamental, essentiel de le réaliser. Dieu nous aime, et je crois que la plupart du temps, quand quelqu'un se retrouve dans, je sais pas, dans un groupe de maison, par exemple, ou dans une réunion, cette personne, elle est comme muette, elle n'arrive pas à s'ouvrir, ou bien elle n'arrive même peut-être pas à se rendre à la réunion, parce que elle a peur de rencontrer les autres, et parce que bien souvent, il y a un manque de certitude d'être aimé de Dieu. Mais je voudrais ce matin, pendant ce culte, que nous puissions, si ce n'est pas le cas, que nous puissions recevoir cet amour inconditionnel de Dieu, le recevoir par la foi, mais ressortir de ce lieu en nous disant les uns les autres, je suis aimé de Dieu, et tu pourras dire à ton voisin ou à celui que tu vas rencontrer après le culte, tu es aimé de Dieu, tu es la bien-aimée, le bien-aimé du Seigneur. Il faut qu'on se le dise, mes amis. Dieu nous aime d'un amour incommensurable. C'est une chose tellement fondamentale que cela, recevoir l'amour de Dieu par la foi. Nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Alléluia. Sans quoi, toutes les belles paroles que nous entendons, si elles ne trouvent pas la foi, je crois que Dieu m'aime, je sais que Dieu m'aime, mais elles sont comme un sac percé, elles tombent dans le cœur, mais elles partent, elles ne restent pas. C'est comme un sac percé, vous mettez quelque chose dedans et ça tombe sur la route, ça tombe sur le chemin. Mes amis, il faut se rendre compte que si Dieu ne m'aime pas, comment les autres vont-ils m'aimer? C'est là qu'on commence à devenir timide et bloqué. Je vous rappelle simplement la lettre d'amour du Père qui contient des paroles magnifiques qui viennent de l'Éternel. « Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. » Ceux qui se rasent la tête, les racines sont encore en dessous. Hein. Donc le Seigneur les compte. « Tu as été créé à mon image. Je suis la vie, le mouvement et l'être. Je te connaissais avant même que tu ne sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Tu n'es pas une erreur. Tous les jours de ta vie sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et les limites de ta demeure. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. » Alors ça, c'est le psaume 139 en français courant. Mais le verset 14 nous dit « Je te loue, Père, de ce que je suis une créature tellement merveilleuse, si merveilleuse. » Alors je peux dire, je sais que tu m'aimes. Et j'aimerais que tu puisses le dire toi, maintenant.
Je sais que tu m'aimes.
Non mais dites-le avec une conviction, enfin. Est-ce que c'est vrai que Dieu vous aime? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu ne les aime pas? Lever la main ce matin. Je joue l'intimidation, j'en fais exprès. Tu n'as pas intérêt à la lever la main. Alors si tu n'as pas levé la main, ça veut dire que Dieu t'aime. Alors tu vas répéter après moi, je sais Seigneur que tu m'aimes. Allez, tu vas le redire une deuxième fois. Et puis une troisième fois. Voilà, na. Amen. Nous savoir aimer de Dieu, ça va nous rendre capables d'aimer notre prochain, d'aimer les autres qui sont autour de nous. Mais si je ne m'aime pas moi-même, je ne vais pas aimer les autres. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si tu t'aimes, tu vas aimer les autres. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas être capable d'aimer les autres. Et même, tu vas trouver chez les autres des choses pour te convaincre qu'elles sont pires que toi. Je sais que tu m'aimes. Si je n'arrive pas à savoir que Dieu m'a aimé à ce point-là, alors je doute qu'il soit aimable. Et si j'ai des problèmes avec moi-même, je ne suis pas réconcilié avec moi-même et je ne vais pas me préoccuper des autres. Mais quand je sais que Dieu m'aime, que la Bible nous dit, ah ça c'est beau, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous vous rappelez les trois questions? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera? Parce qu'il y a l'accusation, il y a le rejet, puis après il y a la séparation de la présence de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'angoisse, la nudité, la faim, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, etc. Mais dans toutes ces choses, Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer. Dieu même, rien ne peut me séparer de son amour. Et je commence à me réconcilier avec moi-même. Et je dis, s'il m'aime, alors je peux m'aimer. Alors demain, tu vas te retrouver devant ton miroir et tu vas dire, franchement, qu'est-ce que tu as loupé hein, pendant des années? Tu es belle, tu es beau, hein? Non. Ça veut dire, je peux accepter de me traiter de la façon dont Dieu me traite lui-même. Et si j'accepte qu'il me traite de telle ou telle façon, de me voir comme Dieu me voit, alors je commence à être d'accord avec Dieu, il m'aime. Donc, c'est juste de m'aimer moi-même, de m'accepter tel que je suis. Il y a une chose qui, il y a des années, m'a fait tellement de bien. C'est un prédicateur qui passait chez nous et il disait ceci. Vous savez, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Vous êtes tous d'accord avec cela? Lorsque nous nous voyons nous-mêmes dans le miroir le matin, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre visage. Mais on pense à quoi? On pense à nos mauvaises pensées, on pense à nos mauvaises actions, on pense à qui nous sommes sur terre en tant qu'être, bien sûr, qui est toujours pécheur, même si nous avons la grâce de Dieu. Mais un prédicateur est passé à dire ceci, et ça a bouleversé mon cœur. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas comme toi tu te regardes, mais il voit sur toi le sang précieux de l'agneau de Dieu. Ça veut dire qu'il te voit parfaite, parfait. Tu as été justifié, tu as été libéré de la puissance du péché. Et c'est vrai que le péché va glisser sur toi, mais ne va pas rentrer en toi. Mais quand Dieu te voit, il te voit au travers du sang de son fils, il te voit juste. Alors, mon frère, ma sœur, sois réconcilié avec toi-même. Je vais cesser d'être en guerre avec moi-même, je vais m'aimer moi-même, et si je m'aime moi-même, je vais être rendu capable d'aimer les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Yes. C'est toujours ce qui arrive dans nos vies. Nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Moi, ce matin, je veux dire face aux puissances de l'adversaire, mon Dieu m'aime et j'y crois. Alléluia. J'aimerais vous inviter à vous tourner vers le Seigneur ce matin et à dire, Seigneur, ton amour, je l'ai entendu ce matin. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Sur ton livre est écrit tous les jours de ma vie. Tu m'as gravé sur tes mains. À la croix, tu l'as démontré. Et maintenant, je veux dire, je sais que tu m'aimes. Je reçois cela et j'y crois. Alléluia. Je crois que tu m'aimes, Seigneur. Et parce que je crois que tu m'aimes, je vais aussi aimer les autres. J'ai du mal à croire que Dieu m'aime. Quand je vois ma vie, ouais, peut-être tu dis cela ce matin. Mais tant que tu vas chercher à ressentir, tu vas dire cela, ça va être comme un sac troué. Mais essayez d'aimer quelqu'un qui ne croit pas à l'amour. Vous essayez d'aimer vos enfants qui ne croient pas à l'amour. Votre conjoint peut-être qui n'y croit pas non plus. Et vous faites tout, mais la personne n'y croit pas. Que se passe-t-il? C'est comme si vous mettiez la glace dans un four, elle fond. Où est la glace? Il n'y en a plus. Puis vous remettez un autre morceau de glace, ça fond. C'est comme un sac percé. Simplement, c'est la foi dans l'amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Seigneur, je sais que tu m'aimes. C'est comme placer des diamants dans un sac percé, sinon. Ce matin, je veux t'inviter, ne mendie pas l'amour, reçois-le de Dieu. Crois que Dieu est amour et crois qu'il te remplit de son amour, de sa présence. Alors, puisque je suis aimé, je peux aimer. Dieu nous a aimés le premier, mais il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Alors, mes amis, plus je sais que Dieu m'aime, plus je peux m'aimer moi-même, mais plus je suis capable d'aimer les autres. Tu n'es pas né avec une intention d'être méprisé, d'être un tout petit. Je sais, Gédéon l'a déjà fait en son temps. Il a inventé le héros miniaturisé de la foi, même avant que les Japonais ne le créent. Alors vous vous souvenez quand l'ange de l'Éternel vient voir Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce qu'il a répondu à l'Éternel? Oh, voici, ma famille est la plus pauvre de la tribu de Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Où sont les miracles de mon père, etc., etc. Du négatif. Et Dieu disait au travers de l'ange, lève-toi, vaillant héros. Vous voyez comment Dieu nous voit et comment nous nous voyons. Vous savez, les jumelles, vous rappelez, les jumelles, lorsque vous regardez d'un côté, ça rapproche. puis vous regardez de l'autre côté, ça éloigne. Souvent, on a des lunettes, des jumelles, mais on ne les prend pas du bon côté. Et on est loin de la réalité que le Seigneur voudrait nous faire comprendre. Et chacun peut dire, je suis une créature si merveilleuse, mon âme le reconnaît bien. Est-ce que tu peux dire ce matin, je suis une créature de Dieu si merveilleuse? Tellement merveilleuse, mon âme le reconnaît bien. Dis à ton âme de reconnaître que tu es une créature merveilleuse. Oui. Amen. Luc, il y en a qu'un qui suit. Il devrait dormir là, mais il suit. Hein. Alors bien souvent, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à être aimés? Parce que nous croyons que si nous jouons à paraître petits, les gens vont être attirés par notre pitié. Je vois si ça vous est arrivé, ça, pas de jouer un peu ce jeu, mais presque, oui, d'être à la limite de le jouer. On voit quelqu'un qui fait pitié, ben, je sais pas si vous avez envie, mais on n'a pas envie d'aimer quelqu'un qui fait pitié comme cela. C'est très bien que tout ce que tu mets dans la pitié, ça va disparaître. Plus on se rend malheureux, on se plaint, on espère, il va y avoir de la compassion, on va nous regarder, on va prendre soin de nous, etc. On va nous coucouner. Mais plus tu fais cela, plus tu éloignes les gens de toi. Ils n'ont pas envie de te relever. Il y a des gens, mais moi je les connais depuis des années, ils sont toujours comme ça. Du 1er janvier au 31 décembre, vous allez les voir, comment ça va? Ah, puis ils vous récitent une tirade, c'est toujours la même d'ailleurs. On n'a pas envie, au bout d'un moment on est fatigué. Mais parce que Dieu est amour, il nous enseigne à nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi on a terriblement besoin de changer d'image de nous-mêmes. On veut être libéré de l'image de la pauvreté de soi, d'une pauvre image de soi, pour avoir une bonne image sur nous et sur les autres. L'homme bienveillant fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Ça veut dire, je veux traiter les autres comme je me traite moi-même. Écoutez bien, si je suis cruel avec moi-même, je vais être cruel avec les autres. Mais si j'apprends que Dieu m'aime et me dit « ne sois pas cruel avec toi », je suis un Dieu de grâce et de miséricorde, alors non seulement on va être guéri, mais on va guérir aussi les autres parce qu'on va être capable d'aller à leur secours. J'apprends à me faire grâce comme Dieu me fait grâce et j'apprends aussi à faire grâce à ceux qui m'entourent. Amen. Alors si j'ai un regard cruel sur Dieu, ben, je vais avoir un regard cruel sur moi et je vais porter un regard cruel sur les autres. Et je vais traiter les autres comme je me traite moi-même. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, dit la parole de Dieu, et il en prend soin. Ainsi, l'humilité, ce n'est pas d'avoir une pensée amoindrie de soi, mais c'est penser moins à soi et davantage aux autres. Voici ce que dira Jérémie. Moi, j'aime beaucoup. Ce matin, on a parlé du sang de Jésus. Je pensais à ça ce matin, alors que j'étais là debout en train de chanter avec vous. Je vaux quoi? Quel est le prix de ma vie aux yeux de Dieu? Je vaux le prix du sang de l'agneau. Tu vaux le prix du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire tu es un joyau entre les mains de Dieu et le prix que tu vaux est très élevé. Jérémie nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Tu as une belle destinée devant toi. J'ai prévu un plan extraordinaire, te dit le Seigneur. Et nous connaissons le grand metteur en scène qui a tout écrit d'avance, qui a prévu pour notre vie. Mais je veux aimer Dieu. Je veux aimer les autres comme Dieu m'aime. Et ça, c'est quelque chose que je veux exprimer. Et à partir d'aujourd'hui, je veux le faire. Amen. Tu es aimé de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu le reçois ce matin. Et ce que tu reçois, tu ne laisses pas moisir au fond de ton cœur, tu le donnes. Et c'est comme un puits, tu vas puiser de l'eau dans ce puits, le niveau va baisser, mais comme il est relié à la nappe phréatique, aussitôt l'eau remonte et l'eau devient pure et de plus en plus pure. Un autre point, ça sera peut-être le dernier ce matin, on va voir si vous êtes sage, exprimer son affection. Ah, alors là, c'est un point qui est délicat. Je me suis rendu compte, même ces dernières semaines, en côtoyant des gens qui sont proches de nous avec Mathé, on s'aperçoit que quand on veut manifester parfois son affection, on tombe sur une sorte de raideur, d'attitude raide. Les gens n'aiment pas trop qu'on manifeste quelque chose à leur égard. Je ne sais pas si vous aimez qu'on vous fasse des compliments ou qu'on vous manifeste de l'affection, mais il y a des gens, c'est terrible. On dirait que rien que le mot affection, ça les fait fuir. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, au chapitre 4 et au verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments envers moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Un grand homme de Dieu, cet apôtre Paul, qui dit « Ah, ça m'a fait du bien que vous ayez exprimé votre affection à mon égard. Ça m'a fait du bien. » Ça, c'est quelque chose qui est important, mes amis. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'entendre des paroles d'affection. Parce que la parole, c'est un moyen puissant que Dieu met à notre disposition. La langue des sages apporte la guérison et une bonne nouvelle, dira le livre des Proverbes, fortifie les membres. Ce que l'on dit, ce que l'on entend, a des incidences sur notre morale, mais aussi sur notre santé. Les paroles que nous entendons, qui sont agréables, elles sont douces pour l'âme, elles sont salutaires pour le corps. C'est pourquoi nous devons apprendre à exprimer verbalement, oralement, des mots, notre affection. La Bible nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête ou mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui construisent, qui édifient et qui communiquent une grâce. Souvenez-vous, au commencement, la Bible commence par ça, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais j'aime bien dire au commencement, Dieu. Trois petits mots. La Bible nous dit que l'Esprit se mouvait au-dessus de l'abîme. La terre était informe et vide. Hein, et tout à coup, il y a une parole qui est tombée. Et cette parole a été tout de suite prise par le Saint-Esprit pour accomplir un miracle extraordinaire. Que la lumière soit. Et la lumière fut. L'Esprit se mouvait jusqu'à ce que l'Esprit entende cette parole, que la lumière soit. Et d'un seul coup, la lumière fut. Waouh! Toute parole est une base d'action pour le Saint-Esprit, pour qu'il agisse, ou parfois pour qu'un mauvais esprit agisse aussi. Je ne dis pas que systématiquement un mauvais esprit agisse sur une parole, mais on dit une parole méchante, et un esprit méchant peut s'accrocher à cette parole et s'en saisir. Mais une parole, c'est plus que des mots, une parole. Elle communique des sentiments. Il y a une force dans une parole, il y a une grâce dans une parole, une force destructrice ou une force de construction. Et l'apôtre Paul nous dit, communiquer des paroles qui vont transférer la grâce sur les autres, qui vont leur donner le goût de vivre, qui vont leur rappeler combien ils ont besoin de se sentir aimés, combien ils sont des personnes de valeur. Tu es né pour un gros projet quelque part sur la terre et je dis alléluia pour cela. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi et tu es né pour ce projet-là. Alors quand je dis cela, peut-être l'incrédulité remplit ton cœur et grandit. Non, je veux te dire de la part de Dieu, le projet de Dieu pour ta vie est un projet sérieux. Vraiment, je bénis Dieu de ce que les jeunes se sentent concernés par la vie de cette Église. Je bénis Dieu de ce qu'il y a eu comme un impact qui a eu lieu sur leur cœur. Vous savez, je pensais ce matin à cet esprit qui était sur Moïse et qui a été répandu sur les 70 qui étaient là. Il y en avait même deux qui étaient hors du camp et ils ne savaient pas que l'esprit était en train de se répandre. Ils ont été saisis par l'esprit. Ils se sont mis eux aussi à prophétiser. L'esprit s'est répandu et les a tous saisis pour une mission particulière. Ce n'est pas pour autant que Moïse a vu son onction baisser, non. L'esprit qui était sur lui a été répandu, multiplié et a reposé sur plein de gens qui se sont mis à prophétiser. Et je prie pour que nos jeunes soient saisis par l'Esprit de Dieu. Mais mes amis, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et on n'y croit pas. Et on se dit, oh ben moi, mon truc c'est d'aller à l'église le dimanche, de venir célébrer le Seigneur, d'apporter ma dîme, mes offrandes, et puis de repartir en faisant le bisou à quelques-uns. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que tu accomplis ce pourquoi tu es né sur cette terre, ce pourquoi Dieu t'a créé. Il y a un but pour ta vie, il y a une destinée qui est précise pour toi. Et on peut se mettre par groupe et commencer à peut-être faire un exercice ensemble sur 4 ou 5 choses que nous aimons. Essayez de le faire durant un moment de repas, vous êtes en famille, et chaque membre de la famille va dire sur l'autre, voici ce que j'aime chez toi. Moi, ce que j'aime chez toi, c'est... Puis on donne 2-3 points chacun. Imaginez une famille de 7 membres, ils sont autour de la table, Et vous êtes en plein milieu avec cette famille, vous êtes donc, faites partie des sept, et vous avez six personnes qui viennent prophétiser sur toi en disant « Ce que j'aime chez toi, c'est… » Et on entend. Alors moi, ce que j'aime chez toi, et tu commences à dire une chose, deux choses, trois jours, et le premier va se dire « Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu de si belles choses sur mon compte. » Et en quelques secondes, voilà cette personne inondée. Puis la deuxième personne est déstabilisée, la troisième est KO, la quatrième elle pleure, et la cinquième elle supplie pour que ça s'arrête. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Je crois qu'il y a une puissance dans une parole qui exprime l'affection. Et je peux vous dire qu'il y a une marque dans cette église. Quand on est arrivé, Mathé et moi, on a senti cette marque de l'affection dans cette église. On a été touchés par votre amour, on a été touchés par votre accueil. On a été touché par votre affection. Et lorsqu'on se sent aimé, ça porte et ça donne envie d'aller plus loin. Imaginez cette famille de sept. Moi, je pense, ne méprisons pas le fait de dire, la Bible nous dit, n'aimez pas seulement en parole. Bon, alors on va donc laisser cette partie-là et puis on va passer à autre. Non, mais déjà, aimez en parole. Commencez par là. N'aimez pas seulement en parole, mais pas en parole seulement, mais commence par là. C'est pas parce que l'on ne doit pas en rester là qu'il ne faudrait pas commencer par là. C'est pourquoi je veux vous encourager, non pas, écoutez-moi bien, non pas à la flatterie. J'ai horreur de la flatterie. On le sent quand les gens sont pas droits, sont pas justes dans leur cœur. Ils vous disent des choses, c'est pour se faire bien voir, c'est pour se mettre en avant, c'est pour essayer d'obtenir quelque chose de toi, ils te flattent. Alors je parle pas de la flatterie, moi. Mais moi, je veux simplement dire, simplement t'encourager à donner un compliment, une parole qui communique une grâce. On peut le faire par écrit. Par exemple, ici, on n'en a pas, mais si on avait des cartes avec écrit dessus « Bravo » ou « Merci » ou « Tu es une personne de valeur » ou une carte avec « Courage » dessus. Alors, je dirais, par exemple, que deux ou trois personnes courent pour aller chercher des cartes. Allez, commencez à les distribuer, ces cartes. Et là, vous les distribueriez à des personnes qui vraiment sont dans le cas qui est précisé par la carte. Donc le temps de ministère, c'est pas on va prier à genoux et pendant que l'orgue joue tel que je suis sans rien à moi, avec des bougies derrière, non. Simplement, aujourd'hui on va faire différemment. Le temps de ministère, c'est d'aller chercher une carte, de courir et de la donner à quelqu'un en disant bravo, j'ai vu l'épreuve à laquelle que tu as traversée, j'ai vu ta résistance, mais je suis là pour te dire je t'encourage, je suis avec toi et je veux te bénir. Je te félicite parce que tu es un exemple pour moi. Tu dis à quelqu'un merci parce que quand tu étais toi-même dans l'épreuve, cette personne, au lieu de te pointer du doigt, au lieu de t'abandonner, elle a prié pour toi. Elle t'a rencontré. Elle t'a dit courage. Quelqu'un qui traverse une épreuve, tu ne sais pas quoi dire parfois que le mot courage. Mais je sais que ce n'est pas facile de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Alors j'ai envie de te dire ce matin, si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Ne plante pas ta tente dans cette vallée de l'ombre de la mort. Si tu traverses l'enfer, n'y reste pas. N'achète pas une maison de vacances là-bas. C'est pas la peine. Tu es peut-être de passage, mais n'y reste pas. Tu n'es pas fait pour finir là, mais bientôt pour t'entendre dire « Courage en ce moment, mais je sais que tu vas aller de l'autre côté et que tu vas traverser cette vallée et que tu vas en sortir victorieux. » Ce n'est rien une parole, ce n'est rien un mot, mais la vie est remplie de paroles et elle est remplie de mots. Et quand l'atmosphère de notre église, de nos familles, est remplie de paroles valorisantes, de petits mots qui nous disent « Merci, courage, tu es un modèle, tu m'inspires, bravo pour ce que tu fais », alors tu deviens tellement précieux et ça te donne envie d'aller de l'avant, mais d'aller vers le Père et de dire « Seigneur, donne-moi la provision dont j'ai besoin pour que je puisse encore une fois aller aider les autres, les aimer encore davantage, leur faire des cadeaux parce que j'ai envie de répandre mon cœur. » Puis il y a les langages de l'amour. Chacun répond à un langage différent. Découvrez le vôtre. Pour certains, ça sera des cadeaux. Vous aimez recevoir des cadeaux ? Allez, franchement, Noël, c'est dans 3 mois. Vous aimez recevoir les cadeaux? Aimez-vous faire des cadeaux? Bon, ne répondez pas, je ne veux pas vous entendre là. Pour d'autres, c'est des paroles valorisantes. Pour d'autres, ça sera des moments de qualité. Pour d'autres, c'est des services qui ont été rendus. Chacun va répondre favorablement selon le langage d'amour qui est dans son cœur. N'attendez pas des autres qui nous parlent dans notre langage d'amour. C'est à nous de parler aux autres avec notre langage d'amour. Donc la Bible dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Faites aux autres ce qu'ils attendent de vous, non. Ça veut dire, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Par exemple, j'aime la louange passionnée. J'aime la musique passionnée, j'aime ce qui vibre, j'aime ce qui est rempli de foi, la qualité musicale, l'intensité, c'est tellement fort. Si jamais un CD de louange passionnée sortait, je dis ça, c'est ce que j'aimerais avoir, ça, c'est ce que j'aimerais posséder. Mais est-ce que c'est agréable à Dieu qu'on le chante, qu'on joue des instruments, qu'on lève les mains, simplement parce qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi ? Non. Pourquoi on peut chanter les plus beaux chants, jouer les plus beaux instruments dans l'excellence ? Parce que on manifeste notre foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et je le fais parce que je sais que mon Dieu récolte cela, il reçoit mon cœur, il reçoit ma louange, il reçoit mon instrument, il reçoit ma voix, il reçoit mes paroles, mon chant, mon cœur. Je l'aime. Et je vais encore le déborder de joie en lui disant « Seigneur, je t'aime ». Mais ce que j'aime chez toi, c'est la foi avec laquelle tu célèbres le Seigneur. Alors mon cœur est connecté à ce genre de choses. Merci Seigneur. C'est un tout petit ce que j'aime chez toi, mais imaginez qu'on soit 10 autour de la personne qui joue de la musique, comme ce matin on a eu nos bien-aimés qui ont animé la louange, ils n'étaient que 2, mais ils étaient là, et qu'on les lapide à coups de paroles de bénédiction, et qu'on dit, ce que j'aime chez toi c'est, ah, tu chantes avec foi, ce que j'aime chez toi c'est, tu es passionné pour Dieu quand tu chantes, quand tu parles à Dieu, on sent ton visage rayonne, tu es passionné, et dans ce cas-là, on peut faire un geste, on peut investir dans toutes sortes de choses, tiens moi, je termine ce culte, je vais faire peut-être un hug à une personne, parce que je suis débordant d'amour pour elle. Ça veut dire que l'amour se manifeste. Par essence même, l'amour n'est pas une philosophie abstraite. L'amour devient un acte. L'amour nous pousse à agir. Alors, en parole, par écrit, par des cadeaux, par des gestes, mais je t'en supplie, mon frère, ma sœur, exprime ton amour. Sors de ta coquille et exprime ton amour. Il faut qu'on soit ingénieux pour exprimer l'amour et ça nous demande juste d'avoir des idées, mais essayons d'avoir des idées pour cela. Alléluia. Ça va, vous êtes rassasiés? Il y en aura d'autres encore. Mais j'aime bien laisser les gens sur leur faim pour la suite. Seigneur, donne-nous de pouvoir manifester qui tu es. Ta parole nous dit que tu nous as aimés le premier et en retour nous voulons t'aimer. Seigneur, il se peut que dans cette église ce matin, il y ait des cœurs qui ont été brisés par des relations, dans les relations, brisés par des choses que le diable a mis en travers pour que ces personnes puissent heurter avec le pied et tomber de tout leur long, pour ne pas se relever. Mais Seigneur, tu es le Dieu de la réparation, tu es le Dieu de la réconciliation, et je veux te demander ce matin de guérir les cœurs qui ont été brisés. Seigneur, que ton baume passe sur chacun de nos cœurs. Pense les plaies de nos cœurs. Guéris-nous profondément, Seigneur, s'il te plaît. Et fais passer ton sang rédempteur dans chacun de nos cœurs. Seigneur, que si nous avons des souvenirs cruels, que cette cruauté s'efface. Et même si le souvenir reste, mais que ce soit quelque chose qui soit comme un souvenir lointain, mais que nous puissions dire, mais depuis j'ai fait une démarche auprès du Seigneur. Je lui ai demandé de retirer de mon cœur l'amertume, de retirer de mon cœur tout ce qui était fiel à mer. Et Seigneur, tu as vidé mon vase et tu l'as rempli. Alors qu'il était rempli de fiel amer, tu l'as rempli de ton amour divin. Et ce vase non seulement a été rempli, mais il a débordé et il a débordé sur les autres. Et Seigneur, apprends-moi à m'accepter tel que je suis, comme tu me vois toi, afin que je puisse aussi regarder les autres et les aimer, parce que tu me demandes de le faire. Et ce matin, je te prie afin que tu me donnes de pouvoir manifester l'amour, cet amour qui me pousse à agir, cet amour qui me pousse à parler, à dire aux autres ce qu'ils ont besoin d'entendre, non pas dans la flatterie, mais dans l'encouragement. Seigneur, aide-nous à être cette véritable famille qui voit comme des forteresses tomber, des murs de séparation tomber. Seigneur, que nous puissions être vulnérables, mais que nous puissions être atteignables par les autres. Seigneur, merci pour le ciment qui nous aide à devenir cette église faite de pierres vivantes, collées les unes à côté des autres avec ce ciment qui nous unit, un ciment qui est l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, que ta parole fasse son effet et que dans le pratique, nous puissions commencer à faire même de petites choses et voir l'autre changer parce que nous avons obéi à ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, aide-nous à bâtir cette église selon le modèle que tu nous présentes. Merci Seigneur pour l'église Josué qui est une véritable famille. Mais Seigneur, dans une famille, il y a encore du travail à faire. Alors, permets que ce travail puisse être continué. Seigneur, tu nous appelles à aller plus loin dans nos relations. Tu nous appelles à nous aimer d'un amour véritable, profond, sincère, honnête, droit. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider en cela. Église de Josué, je te bénis. Je te remercie pour l'amour que tu nous as manifesté à Mathieu et à moi. Merci pour l'accueil. Merci pour la fraternité. Merci pour tout ce que tu as pu nous apporter depuis que nous sommes ici. Mais nous voulons aussi à notre tour apporter. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à être un comme toi tu es un. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de ce que tu nous remplis de nouveau par une huile fraîche, une onction fraîche. Ton amour est répandu dans nos cœurs par ton Saint-Esprit et nous recevons cette dose d'amour. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que mon frère et ma sœur est une créature tellement merveilleuse. Reçois ce message ce matin. Sois guéri au nom de Jésus et avance dans cette carrière qui est ouverte devant toi. Oubliant ce qui est en arrière, porte tes regards vers ce qui est en avant et cours dans cette carrière qui t'est ouverte. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci.